Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Cieux sonores de l'île de Montréal, Santé Plus, Le Journal de Montréal et La Presse. Au programme, 10 mythes sur le sommeil. Cette maman a donné naissance au premier septuplé survivant au monde. Voici ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. La psycho-éducation, incontournable pour la santé mentale de tous les Québécois. Et comptoir alimentaire, fini le plastique à usage unique à l'Université de Montréal. Bonne écoute!
Des emballages plus durables arrivent sur les tablettes. Un texte de Jean-Thomas Léveillé, paru le 23 janvier 2023 dans La Presse. Les contenants de lait d'un blanc immaculé seront bientôt choses du passé pour Nutrinor. La coopérative laitière du Saguenay-Lac-Saint-Jean change la plupart de ses emballages pour un produit plus écologique, un geste qui aura toutefois un faible impact, explique une experte. Tous les types de lait en format de 1 litre et de 2 litres embouteillés depuis le 10 janvier 2023 le sont dans des contenants multicouches faits de carton non javelisé, ce qui leur donne une couleur naturelle. Ces nouveaux emballages contiennent aussi moins de matière que les précédents. Ils sont par exemple dépourvus de revêtements glacés à l'extérieur, ce qui leur donne une texture différente et nécessite moins d'étapes de fabrication, ce qui réduit leur empreinte carbone de moitié, soutient l'entreprise. Nutrinor dit toutefois ignorer si une analyse de cycle de vie a été réalisée pour confirmer cette affirmation. Les émissions de gaz à effet de serre, GES, restantes sont compensées par l'achat de crédits carbone par le fabricant Elopak, qui affirme ainsi que l'emballage est carboneutre. Le but, c'est de réduire cette compensation-là et éventuellement de réduire à la source ces émissions pour avoir un emballage carboneutre qui ne soit pas en partie carbo-compensé, mais la technologie n'est pas rendue là, a expliqué dans un entretien avec La Presse Michael Norman, chef de la direction de Nutrinor. Ce n'est pas parce qu'on a lancé un emballage carboneutre que tout le travail est fait, dit-il. La coopérative dit aussi travailler avec son fournisseur pour réduire l'impact environnemental de ses autres emballages, comme les berlingots de crème ou les sacs de lait en plastique. Effet minime. Si louable soit l'initiative, elle n'aura qu'un effet minime sur l'ensemble de l'impact environnemental du lait, souligne l'ingénieure Catherine Houssard, agente de recherche au Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, CIREG, à Montréal. C'est une toute petite partie, c'est un début, dit-elle, expliquant que la pollution de l'environnement par les fertilisants et les pesticides utilisés dans l'industrie laitière est plus importante que celle liée aux emballages des produits. Les consommateurs croient encore que les problèmes environnementaux sont liés aux emballages, ce qui incite les entreprises à agir sur cet aspect en premier lieu, dit-elle. Nutrinor en est bien consciente, assure Michael Norman. Rappelons que la coopérative a adopté en 2020 son « Pacte agricole durable » qui vise à mettre en place de meilleures méthodes de production à la ferme. Tout le lait produit par Nutrinor provient de vaches en liberté, illustre-t-il. Là où on pouvait agir rapidement, c'était sur le plan des emballages. C'est une étape parmi tant d'autres. Pour se battre contre les gros joueurs, il faut être différent, affirme M. Norman, disant faire le pari qu'à prix égal, car ces changements se font sans majorer les prix, assure-t-il, les consommateurs privilégieront un produit plus durable. La coopérative ne cache pas qu'elle espère par ses initiatives accroître sa place sur les tablettes à l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où ne sont distribués pour l'instant que certains de ces produits. Nutrinor compense en outre les émissions de GES liées au transport du lait de la ferme au marché qui s'élèvent à 1340 tonnes annuellement. Mais cette réduction de l'empreinte carbone de la coopérative laitière, même additionnée à celle liée au changement d'emballage, n'est pas non plus significative, indique Mme Houssard, agente de recherche au CIREG. Quand on réduit l'empreinte carbone de l'emballage, on réduit moins de 3% de l'impact, dit la spécialiste, qui ajoute que le transport représente lui aussi environ 3%. En gros, c'est 6% de l'impact de la bouteille de lait. Cela dit, le lait québécois a l'une des plus faibles empreintes carbone au monde, à 0,93 kg d'équivalent dioxyde de carbone, kilogramme équivalent de CO2 par litre, alors que la moyenne mondiale avoisine les 2 kg équivalent de CO2, souligne-t-elle. En ajoutant le transport, la transformation, l'embouteillage, la livraison et les pertes, l'empreinte carbone totale atteint 1,3 kg équivalent de CO2. Compensation carbone critiquée. Catherine Houssard estime que les efforts de l'industrie laitière méritent d'être soulignés, mais s'inquiète des prétentions de carboneutralité qui se multiplient dans le commerce en général. Il n'y a pas de standard, de certification disponible pour la carboneutralité, ce qui ouvre la porte à de l'éco-blanchiment, explique-t-elle. On se retrouve comme il y a 10 ans avec les produits verts, où tout le monde s'est mis à faire plein de labels maison et finalement on a perdu la confiance des consommateurs, rappelle la chercheuse spécialisée dans le domaine agroalimentaire. Elle ajoute qu'il faut d'abord travailler à réduire au minimum possible les émissions de GES avant de compenser celles qui sont impossibles à éliminer. C'était « Des emballages plus durables arrivent sur les tablettes », un texte de Jean-Thomas Léveillé, paru le 23 janvier 2023 dans la presse. Gérer la santé en s'appuyant sur la science. Une chronique de Régent Hébert parue le 4 juillet 2022 dans La Tribune. Que diriez-vous d'un médecin qui pratique sans se soucier de la science? D'un chirurgien ou d'un radiologiste qui prend des décisions sans se baser sur des données et des preuves scientifiques? Ce serait bien sûr inacceptable, voire dangereux. Pourtant, les réformes du réseau de la santé et des services sociaux ont été menées au cours des 2 dernières décennies sans s'appuyer sur des bases rigoureuses établies par la recherche sur les services de santé. Rien d'étonnant alors de constater l'échec de ces réformes et ses conséquences néfastes sur l'accès à des services de qualité. La médecine s'appuie maintenant de plus en plus sur des données probantes, obtenue à la suite de nombreuses études scientifiques menées de façon rigoureuse à travers le monde. D'abord, avant d'être financées, ces études font l'objet d'une évaluation indépendante par les pairs, les collègues chercheurs experts du même domaine, afin de s'assurer de la rigueur du projet. Une évaluation éthique minutieuse, voire parfois tatillonne, assure la sécurité et la probité de l'étude projetée avant de recruter des participants. L'expérimentation est ensuite menée en ayant soin d'éviter tout biais pouvant fausser les résultats. Puis, une nouvelle évaluation par les pairs survient lors de la publication des résultats. Comme la preuve scientifique ne peut s'appuyer sur une seule étude concluante, l'expérimentation doit être répétée par d'autres chercheurs sur d'autres populations pour confirmer les conclusions. une analyse de plusieurs études, une méta-analyse ou une revue systématique permet de combiner les différentes expérimentations pour obtenir une preuve scientifique solide. Finalement, des comités d'experts traduisent ces preuves en recommandations ou guides de pratique clinique. C'est ce processus qui est à l'origine de l'utilisation des tests diagnostiques ou des traitements par le médecin. C'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, ou la médecine basée sur des preuves. Il existe tout un champ de recherche aussi rigoureux et systématique pour étudier l'organisation et la gestion des services de santé. Comme on s'adresse souvent à des populations et des systèmes, les méthodes de recherche sont différentes, mais la même rigueur y est appliquée, de la conception de l'étude jusqu'à sa publication et à l'examen combiné des expérimentations semblables pour obtenir une preuve solide. Cette science de l'administration de la santé est enseignée dans les universités. On y mène des travaux, financés par les organismes nationaux et internationaux de subvention, qui sont publiés dans des revues scientifiques dédiées. Les gestionnaires et dirigeants de notre réseau ont souvent été formés dans les programmes de ces universités. On y enseigne comment appuyer ses décisions et orientations sur des données probantes. C'est ce qu'on appelle l'Evidence-Informed Decision Making, ou les décisions éclairées par les données probantes. Comme le médecin, tout gestionnaire ou dirigeant devrait toujours baser ses décisions sur des preuves scientifiques. Les résultats d'une étude sur un médicament ou un test diagnostique peuvent être facilement transposés et appliqués à d'autres populations. Il n'en va pas de même pour la recherche sur les services de santé, où le contexte et la population visée peuvent être déterminants sur les résultats d'une intervention. C'est pourquoi il faut être plus prudent avant d'appliquer une intervention, pourtant efficace, à une autre population, dans un autre contexte. C'est ce qui explique qu'on parle davantage de décisions éclairées par les données probantes et non basées sur des données probantes comme en médecine. Il est désolant de constater que les réformes majeures des 20 dernières années n'ont pas été éclairées par des données probantes. Auparavant, une réforme était souvent précédée par un examen rigoureux au moyen d'une commission d'enquête ou d'un groupe de travail. Ainsi, les recommandations des commissions Castonguay, Rochon et Claire ont toutes été appuyées sur un examen rigoureux et exhaustif de la littérature scientifique pertinente. Il n'en fut pas de même lors des réformes Couillard en 2003 et Barrette en 2015. Des réformes majeures, concoctées par des ministres médecins qui n'ont pas appliqué la même rigueur scientifique à transformer le système de santé que celle qu'ils ont apprise et appliquée pour traiter les malades. La commission parlementaire chargée d'examiner la réforme Barrette a pourtant reçu des témoignages de plusieurs scientifiques venus démontrer que cette réforme n'aurait pas les impacts anticipés à la lumière des connaissances scientifiques. On les a ignorés avec le résultat que l'on connaît. On a préféré se baser sur des idées alléchantes, mais non éprouvées. Dans ce domaine, le cimetière scientifique des bonnes idées est vaste et, comme chercheur en ce domaine, j'y ai souvent contribué. Un exemple. Je souhaitais démontrer que des visites préventives par une infirmière formée auprès de personnes âgées à risque pouvaient permettre de détecter et d'intervenir précocement pour prévenir la perte d'autonomie. L'expérimentation que nous avons menée n'a pas démontré d'impact significatif d'un tel programme. Ce résultat a par la suite été reproduit dans d'autres pays avec les mêmes résultats. Ce qui avait l'apparence d'une bonne stratégie s'est donc avéré un mirage. Pourtant, ce genre de programme continue malgré tout d'être implanté dans plusieurs régions du monde avec des investissements en ressources humaines et financières considérables. on ne retrouve pas au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et dans les établissements de santé une culture de décision éclairée par des données probantes. Et pourtant, dans notre système public universel, on en a des données, mais pour toutes sortes de raisons, on ne les utilise pas. Il n'y a plus d'équipe solide dédiée à l'évaluation et au développement au ministère et dans les établissements. Comment une entreprise avec un budget de plusieurs dizaines de milliards de dollars peut-elle se développer et améliorer ses services sans un secteur de recherche et développement? La R&D, recherche et développement, comme on l'appelle dans le secteur privé, est une condition essentielle à la survie d'une organisation et à son adaptation constante aux besoins des clients ou des usagers. Dans les établissements, on applique bien souvent des méthodes et programmes à la mode, prônés par des consultants rémunérés grassement. La fameuse méthode Lean ou Toyota en est un bon exemple. Bien qu'implantée largement dans le réseau à grands frais, les preuves scientifiques de son efficacité en santé sont plutôt faibles. Lorsque de nouveaux services, programmes ou politiques sont implantés, il n'y a aucun souci d'évaluer leur effet autrement qu'en utilisant quelques indicateurs, liés beaucoup plus au processus. Exemple, nombre de services offerts, temps d'attente. Qu'au résultat. Exemple, nombre de vies sauvées, amélioration de l'état de santé, satisfaction des patients. C'est d'ailleurs le jugement porté par le vérificateur général et le commissaire à la santé et au bien-être, CSBE, lors de leur récent rapport. Les quelques études scientifiques sur la réforme de 2003 et certains programmes gouvernementaux, groupes de médecine de famille, guichets d'accès, par exemple, sont plutôt réalisés par des chercheurs universitaires avec un financement indépendant. Les effets désastreux des dernières réformes devraient nous alerter quant à la nécessité d'appuyer des décisions de gestion ou de réforme sur des données probantes. Toute nouvelle politique, programme ou service devrait obligatoirement faire l'objet d'une évaluation rigoureuse quant à sa mise en œuvre et à son impact sur la santé de la population. Nous ne pouvons plus diriger et gérer un système de santé sur la base de lubies colportées par des gourous mal avisés. La science de l'administration des services de santé existe. Il faut en profiter pour utiliser judicieusement les ressources limitées de l'État au plus grand bénéfice de la population. C'était « Gérer la santé en s'appuyant sur la science », une chronique de Régent Hébert parue le 4 juillet 2022 dans La Tribune.
Kiosque magazine. De nouvelles primes pour les cliniques privées, un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir. Les cliniques privées qui réalisent des opérations pour le compte du réseau public recevront dorénavant une prime de 10 % ou 20 % pour les interventions complexes, ainsi qu'une bonification de 5 % ou 15 % pour les patients en attente depuis 6 mois ou plus. Le gouvernement Legault a récemment formulé une directive destinée aux établissements de santé qui encadre les futurs contrats avec le privé. Depuis la pandémie de COVID-19, les centres médicaux spécialisés, CMS, qui effectuent des interventions chirurgicales pour le réseau public, bénéficient d'une marge de profit de 15 % plutôt que de 10 % comme par le passé. Les ententes à cet effet, conclues en 2020 dans le but de rattraper le retard en chirurgie, ont été prolongés jusqu'au 31 mars 2023. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, M3S, a publié le 22 décembre 2022 une circulaire balisant certains éléments des futures ententes avec les CMS, les laboratoires d'imagerie médicale et les autres cliniques privées. La marge bénéficiaire de 15% disparaît des contrats, mais de nouvelles primes apparaissent. Le modèle de bordereau de prix présenté dans la directive est basé sur le coût de l'opération dans le réseau public, coûts directs et fournitures, un rajustement financier de ces coûts selon le CMS, ainsi qu'une bonification pour la complexité et pour le temps d'attente du patient. La prime pour un acte de complexité moyenne s'élève à 10% et grimpe à 20% pour une intervention encore plus complexe. Les CMS obtiennent par ailleurs une bonification de 5% lorsque le patient opéré attend son intervention depuis 6 mois à 1 an et de 15% quand cela fait plus d'un an. C'est à ce chapitre que la directive fait sourciller. Pourquoi offrir aux CMS une prime liée au temps d'attente? Offrir un incitatif à la réduction majeure des listes d'attente considérées comme hors délai, répond le ministère dans un courriel. Les CMS n'ont pourtant aucun levier sur l'ordre dans lequel le centre intégré a priorisé les patients, indique Annick Mongeau, qui représente notamment OPMEDIC et Chirurgie 10-30. Un CI3S et des chirurgiens contactés par Le Devoir le confirment. Les établissements de santé déterminent et fournissent aux cliniques la liste des patients devant être opérés. Je comprends l'objectif, mais je doute que ce soit le meilleur moyen pour permettre au ministre d'atteindre les cibles qu'il a établies, dit Mme Mongeau. D'après elle, la directive soulève pour le moment beaucoup plus de questions qu'il n'y a de réponses. Maude Laberge, professeure en économie de la santé à la Faculté de médecine de l'Université Laval, s'interroge aussi sur cette prime. L'établissement n'a pas vraiment intérêt à transférer ses patients qui attendent depuis longtemps, parce que ça va lui coûter plus cher, observe-t-elle. Au M3S, on indique que cette majoration est offerte pour la première année seulement de l'entente, d'une durée minimale de 3 ans et maximale de 5 ans. La pérennité des contrats devrait inciter les CMS à investir dans certains équipements nécessaires à la réalisation de certaines interventions plus complexes, ajoute le ministère. Ainsi, les CMS pourront contribuer davantage à la réduction de la liste d'attente. Trop cher payé ou pas? Il est difficile d'évaluer, à partir de la directive, combien les contribuables paieront exactement pour les opérations réalisées en CMS. La professeure Laberge juge néanmoins problématique que le gouvernement bonifie le tarif offert aux cliniques par rapport à ce que ça nous coûte dans le réseau public. L'avantage potentiel des cliniques spécialisées, c'est qu'elles devraient avoir des coûts de fonctionnement plus faibles qu'un gros hôpital qui a une diversité de services et qui doit avoir des plateaux techniques plus complets, affirme-t-elle. Si les coûts de fonctionnement sont plus faibles dans les centres médicaux spécialisés, ceux-ci devraient avoir des tarifs plus faibles que ceux des hôpitaux. Sinon, on est en train de payer plus cher pour des services. Madame Laberge estime que la répartition du risque entre le CMS et l'établissement de santé dans les futurs contrats sera intéressante. Par exemple, lorsqu'un patient ne se présentera pas à son rendez-vous chirurgical, la clinique devra assumer les coûts directs et indirects de l'opération. L'établissement de santé devra faire de même si le médecin annule une intervention le jour même pour des raisons médicales. Le M3S resserre aussi la clause de non-recrutement d'employés d'établissements publics avant la fin d'un délai de 90 jours suivant leur départ du réseau. En cas de non-respect de cette clause, il prévoit une pénalité d'un an de salaire de la personne salariée concernée. Cette dernière ne pourra d'ailleurs pas traiter des cas provenant d'établissements pendant les 90 jours suivant son embauche, y stipule-t-on. Une cible impossible à atteindre d'ici mars. Plus de 20 500 personnes étaient en attente d'une intervention chirurgicale depuis plus d'un an au 31 décembre 2022, selon le M3S. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'était fixé pour objectif d'atteindre le seuil de 3 000 d'ici le 31 mars 2023. Il est illusoire de croire que cette cible sera atteinte, selon le Dr Serge Legault, vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec et co-président de comité du rattrapage en chirurgie du M3S. L'attaché de presse du cabinet du ministre Dubé, Antoine de la Durantais, en convient. Bien que nous constations présentement une tendance à la baisse depuis quelques semaines, on doit être réaliste. Ce sera difficile d'atteindre notre objectif fixé au 31 mars, dit-il. Ce dernier précise que le problème des listes d'attente depuis plus d'un an se concentre principalement dans trois spécialités, soit la chirurgie générale, l'otorhino-laryngologie et l'orthopédie. Les données que nous avons maintenant peuvent nous aider à prendre les bonnes décisions et à nous concentrer sur les cas les plus urgents, ajoute-t-il. C'était « De nouvelles primes pour les cliniques privées », un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 20 janvier 2023 dans Le Devoir.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Jocelyne Langevin à la lecture, Diane Métaillé et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.